Encore une fois, soyez à tous, soyez les bienvenus. Le frère Schmidt me demande si je veux enlever mon costume. Nous sommes reconnaissants à Dieu de tout notre cœur, de ce que nous sommes encore ici rassemblés. Nous pouvons nous rassembler, nous réunir dans la liberté pour écouter la parole de Dieu, reconnaissant de ce que vous pouvez encore payer tous ces voyages pour venir ici. Quand je pense à tous les pays voisins qui sont représentés ici, de la Pologne, de la Tchèque, de la Slovaquie, de la Roumanie, de l'Autriche, de l'Italie, de la Suisse, de la France, de la Belgique, de l'Hollande, de partout, nous sommes ici rassemblés pour écouter la parole de Dieu. Et je pense que c'était la Roumanie, les frères et sœurs de la Roumanie, qui ont entrepris plus de kilomètres, 1600 kilomètres seulement à l'aller, 1600 kilomètres. Et quand nous pensons à cette parole où il est écrit que Dieu enverra une faim pour écouter sa parole, et qu'il fera aussi en sorte, et qu'il a fait en sorte que nous puissions pas seulement avoir faim de sa parole, mais que nous ayons la possibilité d'écouter sa sainte et précieuse parole fraîchement descendant de son trône. C'est la grâce, et c'est encore une fois la grâce. Aujourd'hui, je voudrais aussi demander qui est là pour la première fois. Levez rapidement les mains. Avons-nous quelques-uns, bien-aimés sœurs, lève-toi, sois la bienvenue, que Dieu te bénisse. Et avec cela, je lis, oui aussi, sois la bienvenue, que Dieu te bénisse. Sois la bienvenue, sois la bienvenue, sois la bienvenue, sois le bienvenu. Sois le bienvenu, que Dieu te bénisse. Je voudrais avec cela lier cette question. Est-ce que nos frères et sœurs en langue espagnole ont exercé ce psaume et voudraient tout de suite le chanter? Est-ce que c'est ainsi? S'il vous plaît? Pas encore. Ça ne va pas encore. Bon. Je me suis souhaité le psaume 23 en langue espagnole, quelque chose de tout à fait particulier, pas seulement la mélodie, mais aussi le texte. Et nos deux sœurs vont alors à la fin nous chanter un cantique. Nous avons tout, donc plein d'informations du monde entier, particulièrement en ce qui concerne le pape et les États-Unis, en ce qui concerne Israël et l'Iran, et on pourrait continuer avec toutes les informations qui viennent du monde entier, particulièrement de cette région qui est bibliquement a une grande signification, car c'est de ça qu'il s'agit pour nous. Et quand ici je peux faire cette remarque, en 1947, alors que Israël n'avait pas été déclaré encore comme État, l'Iran, autrefois, déjà, sous le char, a, comme premier de tous les peuples de la terre, souhaité la bénédiction à Israël, comme premier de tous les peuples de la terre. Et c'était le premier, c'était le char de l'Iran qui avait offert 1 million de dattes à Israël. Et quand nous allons en Israël et on voit tous ces arbres, ces palmes qui produisent des dattes, et ils viennent de l'Iran, ils viennent tous de l'Iran. Et c'est un ami d'Israël depuis le commencement déjà. Du premier jour, le char a été un ami d'Israël, comme déjà répété en 1947, ça avait été le décret de l'ONU que Israël soit un pays, est un propre pays et soit un État. Et c'est ainsi que déjà, ils ont souhaité la bénédiction à Israël et donc ensuite a suivi l'année 1979, alors que cet homme de Paris est allé à Téhéran. Et c'était un changement jusqu'à ne plus en finir. Et aujourd'hui, depuis 1979, le même Iran est devenu le plus grand ennemi d'Israël. Et dites-le ouvertement. Et ils le disent ouvertement. Seulement si Israël n'existe plus, alors la paix pourra venir sur terre. On verra comment est-ce que toutes ces choses-là se sont changées. Et ici, j'ai encore quelque chose de ce que j'ai mentionné le dernier dimanche à Zurich. Je voudrais en fait, là-bas à Zurich, le dimanche dernier, traduire la première prédication qu'il a tenue au stade à Zurich en 1955. Je voulais traduire, mais malheureusement, il y avait trop de bruit dans l'enregistrement. Et ensuite, le frère Keller m'a remis des coupures de journaux sur les réunions de frère Branham. Et ici, il est dit des foules religieuses à Zurich. Et ce qui m'a touché particulièrement dans cet exposé, directement sous ce titre, suit la question que disent les églises sur ces réunions. Et ensuite, suit le prochain titre, l'opinion des églises réformées. Donc l'opinion des églises réformées. Et ensuite l'opinion des églises catholiques. Et ensuite, suit une opinion l'une après l'autre. Cela m'aurait réjoui si quelque part ils auraient aussi donné un titre, ils auraient trouvé un titre et auraient écrit l'opinion biblique. L'opinion biblique. L'opinion biblique. Pas ce que disent les religions. Qu'est-ce que les scribes et pharisiens ont dit autrefois sur le ministère et les réunions qu'ils tenaient? Il ne s'agit même pas, c'est pas ce qui est important pour ça. C'est pas la manière avec laquelle les hommes donnent un jugement sur quelque chose. Mais c'est ce que Dieu fait dans le présent. C'est ça qui est important pour nous. Et nous sommes simplement reconnaissants de ce que nous avons la grâce d'avoir part à ce que le Seigneur a promis dans notre temps. Et la parole de Dieu prend son cours tout à l'heure du frère Inodi, le frère Inodi, un frère qui aussi dans différents pays voyage, il m'a envoyé une invitation de Cuba. J'étais là-bas il y a 16 ans. Et là-bas, Dieu a ouvert des nouvelles portes que, avec l'aide de Dieu, nous pourrons encore entreprendre un voyage là-bas, à Cuba. Et je ne dois pas oublier, avant de venir à la parole, vous avez peut-être l'impression que nous n'avons pas aperçu le frère Schmitt. Non, nous ne l'avons pas inaperçu. Il a aussi des salutations particulières adressé à toi, frère Schmitt, du monde entier. Tous ont entendu que la sœur Schmitt est repartie à la maison et nous lui avons remis les derniers honneurs et cela a été appris partout. Et les deux ont été dits du monde entier. Salue frère Schmitt particulièrement et souhaite-lui les riches bénédictions de Dieu, la force de Dieu et le soutien de Dieu. Et ensuite, les souhaits de bénédiction ont été adressés à la sœur, au frère Rousse et à la sœur Rousse, aussi de beaucoup de frères et de sœurs. Il y a quelque chose que je n'ai pas entièrement entendu. Peut-être que j'ai oublié quelque chose du haut du nord de l'Europe jusqu'à l'est de l'Afrique et à l'ouest de l'Afrique, du sud de l'Amérique et de partout. Oui, jusqu'à la Sibérie, nous avons reçu du frère Schmitt, nous avons entendu que Dieu est fidèle et il appelle son peuple à sortir. Oui, que cela plaise au Seigneur aujourd'hui de nous bénir d'une manière particulière. Et que vraiment personne, mais vraiment personne, reparte sans la bénédiction du Seigneur. Que tous reçoivent le désir de leur cœur répondu. Et si les sœurs veulent même chanter déjà maintenant ou bien à la fin de la réunion, comme votre cantique sera, que cela s'ajustera déjà maintenant ou bien à la fin. Nous avons en cet endroit la liberté. Nous n'avons rien besoin de faire dans un esprit de dictateur. Nous remettons tout à l'esprit du Seigneur comme il conduit et dirige. Aussi, pendant les chants, nous voulons suivre. Pendant que la chorale chante, pendant qu'il est chanté, nous voulons aussi de tout notre cœur suivre et écouter ce qui est chanté.
Oh, Jesu, mein Herz zu dir nimm. Errette mich ganz von dem eigenen Sinn. So dass es wird Himmel auf Erden schon hier, zu teilen die Schmerzen und Freuden mit dir. Herr, schenk mir die Kraft, Herr, rede zu mir, Herr, hilf mir das Kreuz zu tragen mit. Schenk mir die Kraft, Herr, rede zu mir, Herr, hilf mir das Kreuz zu tragen mit dir. Dring tief in mein Herz, Herr, ich flehe zu dir und sende von oben die Kraft auf zu mir, dass ernster und tiefer ich beugen mich kann, mich opfern und leben für dich, Gottes Lamm. Herr, schenk mir die Kraft, Herr, rede zu mir, Herr, hilf mir das Kreuz zu tragen mit dir. Herr, schenk mir die Kraft, Herr, rede zu mir, Herr, hilf mir das Kreuz zu tragen mit dir. Ich will nicht mehr bitten um Krone und Reich, ich flehe, mein Jesus, oh, mach mich dir gleich. Das Leiden ich kann hier, mein Jesus, für dich. Du bist ja vom Tod auferstanden für mich. Herr, schenk mir die Kraft. Herr, rede zu mir. Herr, das Kreuz zu tragen mit dir. Herr, schenk mir die Kraft. Herr, rede zu mir. Herr, hilf mir das Kreuz zu tragen mit dir. Ich sehne mich sehr nach dem Glück, oh, möchte nicht etwas mich halten zurück, denn schön ist die Hoffnung des Himmels für mich. Ich weiß ja, mein Jesus, ich ist. Herr, schenk mir die Kraft. Herr, rede zu mir. Herr, hilf mir, das Kreuz zu tragen mit dir. Herr, schenk mir die Kraft. Herr, rede zu mir. Herr, hilf mir, das Kreuz zu tragen mit dir. Herr, schenk mir die Kraft. Herr, rede zu mir. Herr, hilf mir, das Kreuz zu tragen mit dir. Herr, schenk mir die Kraft. Herr, rede zu mir. Herr, hilf mir, das Kreuz zu tragen mit dir.
Amen.
Amen.
Amen. Und am Ende werden wir dann.
Et à la fin, alors, nous échangerons la croix avec la couronne. Restez fidèle jusqu'à dans la mort. Reste fidèle jusqu'à la mort, ainsi je te donnerai la couronne de la vie. C'est pour moi aussi un jour particulier. Nous avons ici les sujets bibliques que nous avons assez traités. Et aujourd'hui, nous allons encore une fois parler de ce sujet particulier, le retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et seulement cela de la vue biblique, car tout le reste ne nous intéresse pas. Et merci, oui, merci frère Gilbert. Et nous avons eu une réunion puissante à Paris. Et pour la première fois, librement et ouvertement, nous avons aussi parlé de 1 Thessaloniciens chapitre 4. Et nous avons simplement insisté que tel que c'est écrit là, c'est ainsi que cela va s'accomplir et pas autrement. J'ai ici avec esprit écrit tous les versets bibliques des Saintes Écritures qui donc justement font référence de ce mot venu en relation avec des personnes. 24 fois dans le Nouveau Testament, le même mot, parousia, est écrit en référence à des personnes. Dans Matthieu 8, verset 33 jusqu'à 2 Timothée, chapitre 1, verset 17. Simplement, si par exemple une personne quelconque vient quelque part, arrive. Alors c'était là son arrivée, c'était sa venue. Parousia. Par exemple, dans Actes des Apôtres, le chapitre 13, au verset 5, il est écrit: arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues. Et ici, il y a des pages après des pages que je pourrais continuer à mentionner. Dans Actes des Apôtres, chapitre 28, verset 16, lorsque nous fûmes arrivés à Rome, le même mot, arrivé, donc parousia, venu. Ensuite, dans 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 5, car depuis notre arrivée à Macédoine, 2 Corinthiens 7, verset 5, toujours le mot arrivé, venu, et ça veut toujours dire quand quelqu'un est arrivé corporellement, lui-même, en personne, depuis notre arrivée. Et ici, nous avons eu cette expérience merveilleuse il n'y a pas longtemps. J'ai eu déjà à mentionner cela a raconté cela. Le frère Frangos, un né grec, était assis avec nous dans cette salle ici. Et un mot grec doit être bien connu d'un grec. Et parmi la conférence des frères, dans la conférence des frères, j'ai simplement demandé, frère Frangos, tu es grec. Et le mot grec est ta langue. Dis-nous ce que veut dire le mot parousia. Et voilà, au lieu de parler, il se lève et il sort carrément ici par cette porte et il ferme la porte derrière lui. Et tous, nous étions étonnés et on se demandait, mais qu'est-ce qui se passe? Et on se demandait ce qui allait arriver. Et ensuite, la porte s'ouvre et il entre et il nous dit à tous, ça, c'est la signification du mot parousia. Arrivée personnelle. Oh, pour moi, c'était plus d'une leçon. Donc, 24 fois, le même mot dans le Nouveau Testament est écrit pour montrer le même mot qui est aussi utilisé 16 fois pour le retour de notre Seigneur. 16 fois. Ou de Matthieu 24, verset 3, par tous les autres versets bibliques, jusqu'à dans 2 Pierre, le chapitre 3, le verset 4, 2 Pierre, chapitre 3, verset 4. Toujours partout le mot arrivé ou bien venu, ou bien alors venu ou bien retour, le même mot est écrit 16 fois par Ousia, 16 fois en relation avec le retour de notre bien-aimé Seigneur et Rédempteur. Nous allons tout de suite encore revenir aux différents versets bibliques dans les détails, mais pour nous en cet endroit, peut-être en Europe, c'est peut-être pas nécessaire de traiter ce sujet comme dans le monde entier, partout où il est enseigné que le Seigneur serait déjà revenu et toutes sortes de thèmes semblables. S'il vous plaît, retenez trois choses dans vos mémoires. De Jean, le chapitre 14, et ici, nous avons dans les premiers trois versets, trois choses qui sont dites. L'évangile de Jean, le chapitre 14, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Que votre cœur ne se trouble pas. Je vous remets au point. Craignez, donc croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Ça, c'est le premier point. Je vais vous préparer une place. Le deuxième point, c'est au verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Ça, c'est la promesse. Je reviendrai. Ensuite, le troisième point. Et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, ce n'est pas comme ça une promesse que le Seigneur, quelque part, sur cette terre, revient. Et ensuite, reste avec nous ici sur terre un certain laps de temps. Non, mais il dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, je vous préparerai une place et je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que vous soyez là où je suis. Donc, trois choses. Avec le retour de notre Seigneur, notre enlèvement est direct dans la gloire, est directement lié avec son retour. Notre enlèvement dans la gloire est directement lié. Ça, c'est la sainte parole de Dieu et c'est ainsi que ça demeure. Réellement, nous avons ici les expressions les plus merveilleuses en relation avec le retour de notre Seigneur. Et nous allons encore une fois considérer plusieurs choses et nous approfondir dans ces choses. Mais avant que nous le fassions, je voudrais ici venir à parler de la chose principale et elle est écrite dans 2 Pierre, le chapitre 1, dans 2 Pierre, le chapitre 1. Et cela, ici, il s'agit au verset 16. Dans 2 Pierre, chapitre 1, au verset 16, il est dit: ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Qu'est-ce qui a précédé cela? Qu'est-ce qui a précédé ce verset-là, 16? Qu'est-ce qui a précédé cette citation ici? Qu'est-ce qu'il a été écrit? Qu'est-ce qu'il a écrit de la part du Seigneur sous son mandat? Ça, nous le lisons au verset 3. Dans 2 Pierre, chapitre 1, au verset 3. Bien-aimés frères et sœurs, ça n'a aucun sens d'être en train de parler du retour de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ sans aussi être en train de parler de ce qui est nécessaire pour que, en tant que croyants, nous soyons prêts quand le Seigneur reviendra. C'est de ça qu'il s'agit pour nous. Pas seulement du savoir, reconnaître toutes ces choses, mais de l'expérience personnelle qu'on fait pour nous préparer, comprendre ce qui est important pour nous. Ici, à partir du verset 3, dans 2 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 3, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Ensuite suit la liste de ce que l'homme intérieur dans son cœur a besoin comme édifice. Comment est-ce que l'une est ajoutée à l'autre et doit être ajoutée à l'autre? Ces choses n'ont pas le droit de nous manquer pour que nous puissions avoir part à la nature divine et nous préparer. Tout est ici décrit et cela est directement lié à notre préparation jusqu'à l'amour fraternel et à l'amour pour tous les hommes. Et ensuite, il est décrit au verset 8: car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Si ce que nous avons lu à partir du verset 3 jusqu'au verset 7, du verset 3 au verset 7, si ce que nous avons lu du verset 3 au verset 7 devient en nous une réalité divine, si ces différentes vertus-là en nous, par la grâce de Dieu, se manifestent, sont manifestées, alors nous, il est écrit ici que nous ne manquerons de rien, il est écrit ici, au verset 12, au verset 9, mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Ensuite, au verset 10, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous pour d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Soyons sincères. À quoi est-ce que ça sert aux gens de dire, le Seigneur est déjà venu. Les saintes écritures nous le disent clairement, que quand on dira qu'il est dans le désert, ne le croyez pas. Matthieu 24, quand on dira il est là, ne croyez pas. Matthieu, car comme l'éclair sort de l'est et éclaire à l'ouest, c'est ainsi que le retour du Seigneur sera. Nous avons ici deux jours avec des tonnerres et des éclairs, comme les nouvelles nous l'ont dit aussi, plus de 1000 éclairs dans deux tempêtes, plus de 1000 éclairs. On ne savait plus où est-ce que ça commence et où est-ce que ça, comment est-ce que ça arrive et quand est-ce que ça arrive et quand est-ce que ça cesse. Un éclair l'un après l'autre. Et l'un après l'autre, comme ça, sans arrêt. Si alors il est écrit que le retour de Jésus-Christ sera semblable à un éclair qui apparaît à l'est et éclaire à l'ouest, alors on peut le croire et on a la grâce de le croire de tout notre cœur, que ce sera ainsi, comme la Bible dit. Je voudrais encore lire des Saintes Écritures, et cela de l'Évangile de Luc. Et ça, c'est justement le verset le plus incompris ou bien alors le plus interprété. Et je voudrais particulièrement à tous les frères dans le ministère attirer leur attention sur le singulier et le pluriel pendant que nous allons lire ces versets. Faites attention au singulier et au pluriel. Luc chapitre 17. Le frère Branham s'est souvent référé à ce texte. Et nous avons vu, s'il vous plaît, ne vous étonnez pas, ne vous effrayez pas, mais le message divin que frère Branham, sous l'ordre de Dieu, a envoyé, mandaté par Dieu, était tellement important pour lui que dans ses prédications, il a mentionné plus de 4000 fois le mot message. Plus de 4000 fois a été prononcé par frère Branham. Et pourquoi? Parce qu'il lui avait été dit, comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue du Christ, c'est ainsi que tu seras envoyé avec un message qui sera précurseur du retour du Christ. Donc, faisons-en référence au message. Et maintenant, ce message va encore comme précurseur dans le monde entier et atteint les extrémités de la terre. Nous souhaitons à tous qui écoutent en direct et qui voient en direct jusqu'au Chili et partout où nos frères et sœurs sont dans le monde entier. Nous voulons ici, dans l'évangile de Luc, chapitre 17, lire à partir du verset 24. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. En son jour. Au singulier, s'il vous plaît. En son jour, au singulier. Au verset 26, ce qui arriva du temps, au singulier, au pluriel, ce qui arriva dans les jours, au pluriel, en allemand c'est au pluriel, et frère Franck met l'accent là-dessus, ce qui arrivera dans les jours de Noé, arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Dans les jours du Fils de l'homme. Les jours de Noé étaient un laps de temps. Et les jours du Fils de l'homme sont aussi un laps de temps. Mais le jour du Fils de l'homme fait référence à son retour. Et ici, c'est important. Les jours du Fils de l'homme et le jour du Fils de l'homme. Je relis encore le verset 25 et 26. Ce qui arriva. Dans les temps de Noé, dans les jours de Noé, ce qui arriva dans les jours de Noé arrivera de même dans les jours du Fils de l'homme. Ensuite, au verset 27, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour, au singulier, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Une fois des jours au singulier et ensuite le jour important, le jour où cela s'accomplit. Ensuite, le verset 28. Ce qui arriva dans les jours de Lot, un laps de temps de nouveau, jour au pluriel, dans les jours de Lot. Et ensuite, arriva pareillement, les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour au singulier, mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Maintenant arrive. Et c'est-à-dire toujours encore au singulier. Il en, au verset 30, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme apparaîtra au singulier. Des jours faisant référence à un laps de temps, à une saison, mais le jour duquel il est écrit. Et bien, mes frères et sœurs, si nous nous approfondissons dans la parole et qu'on respecte et qu'on voit et qu'on reconnaît les différents contextes, notre cœur loue et exalte le Seigneur. Je me demande où est-ce que le respect est resté auprès des frères dans le ministère pour la parole qui s'élève au-dessus de ce qui est écrit et dit ce qu'ils veulent et prétendent ce qu'ils veulent. Ils ont perdu la crainte devant Dieu et la parole de Dieu. Et ils sont, comme nous allons le voir tout de suite, mais lisons d'abord encore une fois dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 24, pour tout de suite nous montrer la différence. Matthieu 24, ici il est aussi écrit au verset 27, Matthieu 24, verset 27, car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Verset 27, ici je ne vais pas m'arrêter longtemps parce que justement, il est d'une manière incroyable, interprété et incompris. Ici il est écrit au verset 28. Et vous savez que le Seigneur a toujours utilisé des exemples pris de la nature pour représenter quelque chose de surnaturel pour que nous puissions tous comprendre de quoi il parle. Ici au verset 28, en quelque lieu que soit, le cadavre, là s'assembleront les vautours. Et il y a l'interprétation qui arrive. Que le cadavre, c'est la parole révélée, et le vautour, ce sont les croyants. Non, c'est loin d'être ça. La parole révélée est vivante. C'est pas un cadavre. Hébreux 4, verset 12. Elle est vivante, elle est efficace, c'est pas un cadavre. Ici, c'est un exemple naturel, pour que nous puissions comprendre. Je vous l'ai déjà raconté ici, de mon voyage au nord de l'Inde, à Pancha. À l'époque, j'avais encore entrepris plusieurs kilomètres en voiture là-bas, dans la région. Et quelque part, il y a quelque chose qui s'est passé justement, comme si le soleil était en train de se coucher et subitement, tout un troupeau, que ce soit des vautours ou bien, je ne sais plus ce que c'était comme oiseau, mais ils se sont chutés, ils se sont laissés tomber. Je me suis demandé, mais qu'est-ce que c'est? Et alors que j'allais à ce point où tout s'était tombé, c'était il y a quelqu'un, il y avait un certain animal qui avait été cogné par une voiture, tous ces vautours-là se sont jetés là-dessus. Ici, il est montré simplement qu'il y aura un rassemblement qui aura lieu et que le peuple de Dieu va être rassemblé quand le Seigneur, comme un éclair, reviendra. Et que tous, en un clin d'œil, nous serons transformés. C'est simplement pour montrer que nous serons rassemblés pour cet événement. Je n'ai pas besoin d'une interprétation de la parole, mais simplement de savoir que le Seigneur ici a utilisé des exemples naturels pour montrer qu'en relation à son retour, il y aura un rassemblement. Maintenant, ce qui est important ici à respecter, et nous avons aussi à le dire à tous les frères qui prêchent la parole. Ensuite, au verset 29 de Matthieu 24, il est parlé du temps de tribulation. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Ici, nous avons deux choses. D'abord, la venue du Fils de l'homme, l'avènement du Fils de l'homme au verset 27. Ensuite, notre enlèvement et ensuite la grande tribulation après l'enlèvement. Et ensuite, la révélation du Fils de l'homme à son peuple d'Israël. Cela est montré au verset 30. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Quand le Seigneur revient pour prendre l'Église épouse auprès de lui, ici personne ne va se lamenter. Ici personne ne va se lamenter. Tous vont continuer à vivre. Il y aura deux qui seront couchés sur le lit. L'un sera pris, l'autre sera laissé. Deux sur le champ, l'un sera pris, deux à la mule. Mais ici nous voyons, ici le contexte. D'un côté, nous voyons d'abord au verset 27 le retour de notre bien-aimé Seigneur pour nous prendre auprès de lui. Matthieu 24, ça c'est verset 27, tel qu'il l'a promis. Je vais pour vous préparer une demeure. Et je reviens pour vous prendre auprès de moi. Ça, c'est Matthieu 24, verset 27, pour que vous soyez là où je suis. Mais ensuite, la grande tribulation suit tout de suite. Après l'enlèvement, suit tout de suite la grande tribulation. Et ensuite, le soleil s'obscurcit. La lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel. Et les puissances des cieux seront ébranlées. Cela n'a pas lieu, s'il vous plaît, avant l'enlèvement. Cela a lieu après l'enlèvement. Et ça, c'est déjà l'introduction dans le jour du Seigneur qui est décrit dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Ensuite, suit le verset 32, il est parlé ici. Intrusez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres, tous nous connaissons, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Et c'est ainsi que nous voyons des Saintes Écritures. Comment est-ce que tout, d'une manière merveilleuse, a été ordonné? Mais il faut que ce soit révélé dans son contexte juste par le Saint-Esprit pour que nous puissions dispenser correctement la parole de Dieu. Revenons à cette parole de Pierre, le chapitre 1, encore une fois, l'avertissement, l'exhortation adressée à nous tous qui nous attendons au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette parole est adressée à nous tous qui attendons le retour de notre Seigneur. Ici, dans 2 Pierre, au chapitre 1, nous avons lu au verset 16. Ensuite, nous pourrions, n'est-ce pas, continuer à lire jusqu'au verset 19 de 2 Pierre, chapitre 1. Maintenant, à partir du verset 16 jusqu'au verset 19, il lit « Et nous tenons plus d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, Au verset 20, sachez tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Alors, qu'est-ce qui se passe? Au chapitre 2, qu'est-ce qui suit? Ici, il est parlé d'interprétation que n'ont pas le droit d'avoir être. Et ensuite, au chapitre 2, qu'est-ce qui se passe? Lisons dans 2 Pierre, chapitre 2, à partir du premier verset. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs. Qui? De faux docteurs. Ici, voilà le contexte, là où, dans le contexte, il est parlé du retour du Seigneur Jésus-Christ. Là où, dans le contexte, il nous est dit que, justement, la parole prophétique n'a pas le droit d'être l'objet d'interprétation particulière. C'est justement dans ce contexte que l'apôtre conduit par le Saint-Esprit continue et écrit qu'il y eut parmi le peuple de faux prophètes et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses. Je vous le dis très sincèrement, en cet endroit, personne ne prêchera jusqu'à la fin qui voudrait nous dire, par exemple, que le Seigneur est déjà revenu en 1963. Personne ne pourra dire, c'est pas possible, on va l'arrêter tout de suite. Toutes ces choses ne sont pas dites comme ça officiellement, mais sournoisement, pernicieusement, sournoisement infiltrées, et ça produit des sectes. Ils ne le disent pas publiquement, ils le disent comme ça, sournoisement. Et ce sont des disciples à leur suite qu'ils font. Ensuite, il est écrit malheureusement, et qui renient le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Au verset 2, plusieurs les suivront dans leur dérèglement, et la voix de la vérité sera calomniée à cause de cela. Par tous ces faux enseignements. La parole de la vérité est blasphémée, est remise en question. Le vrai enseignement est remis en question. Mais laissez-moi vous dire que la vérité aura malgré tout la victoire. La parole de Dieu aura la victoire et Dieu aura le dernier mot. Et chaque interprétation est déjà condamnée à l'avance. Dieu est seulement dans sa parole et dans aucune interprétation. Et encore, dans le texte que nous avons aussi lu à Paris, car il y a une citation de frère Branham qui est incompris, qui est mal compris, quand on ne la considère pas au travers des Écritures, on ne la retrouve pas dans les Saintes Écritures, on la place pas dans les Saintes Écritures. Le frère Branham a dit, mot à mot, le message est l'appel. Le message est le cri. Mais ce que les frères ont manqué de lire, c'est-à-dire de voir que frère Branham, tout de suite, après cela, est allé à Matthieu 25 et a dit, ceci est le temps, préparez vos lampes et remplissez-les d'huile, car le retour du Seigneur est proche. Donc, il veut dire 1 Thessaloniciens 4. Le frère Branham a dit, le message est le signal donné de 1 Thessaloniciens 4. Mais revenons à la parole de Dieu, c'est cette citation-là que les frères ont justement mal compris. 1 Thessaloniciens, à Paris, j'ai même demandé à tous de se lever. Est-ce que j'ai le droit de le faire ici? Nous voulons nous lever, s'il vous plaît. Et dans toute la crainte, lire ce qui est écrit ici en relation avec le retour de Jésus-Christ notre Seigneur. Promis, je vais pour vous préparer une place et promis, je reviens encore promis et je vous prendrai auprès de moi pour que vous soyez là où je suis. Lisons de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13. Et je vous demande de faire attention. Est-ce que ici, vous pourriez introduire un laps de temps qui serait donc un dernier cri, un dernier appel adressé à des vivants? Ou bien est-ce qu'ici, il s'agit de ceux qui sont décédés en Christ? Et seulement à la fin, ceux qui sont vivants sont introduits, sont mentionnés. Lisons ici dans le recueillement. Verset 13. 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Pas au sujet de ceux qui sont décédés. Pas au sujet de ceux qui sont sages ou bien folles, mais au sujet de ceux qui sont décédés. Nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance. Afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. De quoi il s'agit ici? Il s'agit de ceux qui se sont endormis en Christ. Si c'est oui, dites Amen. Lisons le verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont décédés. Croyons-nous cela? Amen. Tous en Christ, tous ceux qui sont endormis en Christ, il leur ramènera et ils ressusciteront premièrement. Continuons à lire le verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous le faisons aujourd'hui encore. C'est la même parole du Seigneur que nous déclarons. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Ensuite, le verset 16, car le Seigneur lui-même, pas un message, pas un appel, un cri, mais le Seigneur lui-même, à un signal donné, et ce signal donné est adressé à ceux qui sont morts et pas à ceux qui sont vivants. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement.
Amen.
Ce n'était pas encore assez fort. Amen, amen, amen. Verset 17. Ensuite, quand cela se sera passé, ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur. À la rencontre du Seigneur, dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles-là. Vous pouvez vous asseoir. Ici, il n'y a rien qui concernerait un message ou bien un messager qui serait apporté dans le monde entier. Il n'est pas parlé de ça du tout. Mais il est parlé du retour du Seigneur et de ce qui se passe quand il revient. Les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous qui sommes restés vivants, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur. Et à cela, j'ai en fait encore tous les versets bibliques que je me suis écrits qui appartiennent à ce sujet, qui ont leur place ici. Écoutez, s'il vous plaît, Philippe 3, verset 20 et 21. Regardez ce qui est écrit ici, dans Philippiens, chapitre 3, verset 20. Ici, nous avons, oui, le verset 20. Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Cela aura lieu alors, au moment où notre Seigneur reviendra et que nous serons transformés par sa grâce. Que tous dans le monde entier puissent l'entendre. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 21. Nous lisons justement encore seulement ces versets qui appartiennent à ce contexte, à ce sujet, pour que tous puissent savoir que les saintes écritures l'enseignent ainsi et que cela nous a été transmis ainsi. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 21, de la part de notre Seigneur lui-même. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Romains chapitre 8, et ici nous lisons verset 11. Romains chapitre 8, verset 11.
Et si le Geist dessen,
et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ici, bien-aimés frères et sœurs, nous avons un point très très important. La plénitude de l'Esprit, la puissance du Saint-Esprit n'est pas seulement nécessaire pour effectuer le ministère. La puissance du Saint-Esprit est nécessaire pour que ce corps mortel soit vivifié, oui, transformé, pour qu'il puisse être transformé. Tous nous savons que notre Seigneur l'a dit, demeurez à Jérusalem jusqu'à que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et cela a eu lieu, que Dieu soit remercié, ça s'est passé. Mais ensuite, nous lisons, parler de la transformation. Seulement, si l'Esprit de Dieu vraiment habite en nous, pas seulement une expérience, pas seulement une onction, mais habiter, demeurer. Ça, aussi frère Branham a eu d'une manière merveilleuse à parler de ça, concernant les oints de la fin des temps. On peut être oint du vrai Saint-Esprit, mais est-ce que le Saint-Esprit a pu établir sa demeure en nous et habiter? Est-ce que nous sommes conduits par le Saint-Esprit? Est-ce que ce n'est plus nous qui vivons? Est-ce que le Saint-Esprit peut nous conduire dans toute la vérité? C'est de ça qu'il s'agit maintenant, pas seulement d'une onction, mais d'une demeure, d'habiter en nous. Et c'est de ça qu'il s'agit maintenant. Et bien, mes frères et sœurs, je crois que seulement l'Esprit de Dieu en toi et en moi peut rétablir la relation avec Dieu et avec la parole de Dieu. Ça, ce n'est aucun homme peut le faire. Il faut que cela ait lieu par le Saint-Esprit, par la grâce de Dieu. Ensuite, nous avons 1 Corinthiens, 15. C'est le chapitre le plus puissant sur le retour du Seigneur. Et ici, les trois passages, les trois points directement l'un après l'autre nous sont montrés. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, commençons avec le verset 20.
Nun aber ist Christus von den Toten auferweckt worden als Erstling.
1 Corinthiens 15, verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Il n'est pas seulement le premier-né entre plusieurs frères, mais il est le prémice de ceux qui sont ressuscités. Celui qui a ôté la puissance de la mort, qui a vaincu le diable et le Satan, donc le troisième jour, est ressuscité. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Comme il est écrit ici. Verset 21. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Ici, notre bien-aimé Seigneur, en tant qu'homme, est montré qui pour les hommes est mort. Il fallait qu'il devienne semblable à nous. Il fallait qu'il ait du sang dans un corps, dans son corps, pour pouvoir expier nos péchés, pour que nous soyons réconciliés avec Dieu et que nous recevons la nouvelle vie de Dieu, par la grâce de Dieu. Donc, il ne pouvait pas venir en tant qu'ange, il ne pouvait pas venir en tant que dans sa forme immortelle. Il fallait qu'il vienne dans un corps mortel. Pour ainsi rendre fin la mortalité et nous redonner l'immortalité. Maintenant, revenons à notre sujet, le verset 22. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Maintenant arrive le partage, donc mais chacun en son rang. Christ comme promesse. Puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Comme première chose, comme prémisse Christ. Ensuite, ceux qui lui appartiennent, ceux qui lui appartiennent, qui doivent être transformés et qui vont être transformés, ceux qui lui appartiennent lors de son avènement. Je le dis avec douleur que dans toutes les autres langues, le mot avènement manque. C'est seulement redonné comme le mot donc venu ou bien retour. On ne lit pas retour, ils lisent partout il est parlé d'avènement. Nous avons en allemand ce privilège par le réformateur Luther de ce qu'il a été dans notre pays et partout il a mis le mot retour et il a été exact dans la traduction pour montrer de quoi il s'agit. Ici, c'est la différence. Il y a nettement aussi la venue du Seigneur, bien l'avènement du Seigneur, quand il viendra en tant que fils de l'homme, et que tous les hommes, tous les peuples seront rassemblés devant lui. Il y a sa venue, son avènement. Quand il frappera bien sa venue, quand il frappera l'Antichrist, il y a sa venue. Quand tout ira en feu, il y a sa venue. Quand il placera son pied sur la montagne des Oliviers. Mais ici, il ne s'agit pas simplement d'une venue. Il s'agit ici du retour. Promis, je vais pour vous préparer une demeure. Et je reviens. Pas seulement et je viens, mais je reviens pour vous prendre auprès de moi. En anglais, c'est écrit comme ça, comme again. Mais il est seulement écrit dans Jean 14, et il est écrit aussi, pas une unique fois en plus, mais seulement ensuite, même en anglais, venu. En fait, ça devait toujours dire come again. Retour. Et c'est ainsi que parfois, nous devons, dans les autres langues, aider nos frères. Au verset 24, il est écrit ici dans 1 Corinthiens, ensuite viendra la fin. Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Donc, en tant que prémisse Christ. Ensuite, tous ceux qui lui appartiennent lors de son avènement, lors de son retour. Et ensuite, viendra la fin. Et c'est exactement décrit au verset 25, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Ici, nous avons déjà le millénium, le règne de notre Seigneur ici sur terre. Et ensuite, suit le dernier, donc c'est à régler le compte du dernier adversaire au verset 26. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Ensuite, nous avons ensuite l'achèvement au verset 27 et 28. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Verset 28. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, il a lu le verset 27 d'abord, ensuite le verset 28. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Ici nous avons le temps, la fin du temps et l'entrée dans l'éternité. Quand tout sera vaincu, alors il ne sera plus parlé de père et de fils. Ça, c'est maintenant, ce sera alors l'éternité. Il ne sera plus parlé de père ou bien de fils dans l'Ancien Testament. Combien de fois il est parlé seulement de Dieu le Seigneur. Dieu le Seigneur, dans l'Ancien Testament. Mais ensuite, dans la présence de Dieu dans le Nouveau Testament, il est parlé donc de fils et de... Et ensuite, quand ses adversaires seront anéantis, la fin viendra. Et alors ce sera Dieu en tout et en tous. Et alors tout aura servi à quelque chose. Le plan de la rédemption aura servi à quelque chose et aura trouvé son accomplissement. Je suis étonné de voir comment est-ce que la parole de Dieu nous a été transmise d'une manière merveilleuse. Nous avons la grâce réellement de regarder dans les saintes écritures et de voir comment est-ce que dans les détails, tout nous a été accordé et la grâce que Dieu nous a donnée, c'est que par le Saint-Esprit, nous soyons conduits dans toute la vérité. Pourquoi ? Nous n'avons pas de propre enseignement ou bien de propre représentation ou bien imagination. Nous pouvons croire, nous avons la grâce de croire comme le dit les Saintes Écritures. Revenons de nouveau à la chose principale. Même si nous connaissions tous les mystères, même si nous connaissions, si nous pouvions exposer tout, mais que nous n'aurions pas l'amour de Dieu, l'amour en nous, c'est seulement l'amour qui nous amènera au but. L'amour, pas la connaissance. Paul le dit, même si je pouvais parler dans la langue des anges et que je connaissais tous les mystères et que je pouvais ordonner tout à la place exactement. J'avais une vue d'ensemble sur tout le plan du jeu comme jamais auparavant. Il y a un appel que j'ai reçu aujourd'hui et il m'était dit, frère Franck, dans ce temps, il t'a été donné la plus grande responsabilité de prêcher la vraie parole de Dieu. Et je disais, la responsabilité, c'est Dieu qui l'a prise. Dieu lui-même a pris sur lui cette responsabilité. Et il veille sur sa parole. Et il veille sur nous. Nous qui avons à prêcher sa parole. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur de ce que nous avons accès à sa parole. La chose principale, c'est notre préparation pour le jour glorieux du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais pour vous préparer une demeure et je reviens pour vous prendre auprès de moi. Il s'agit des demeures au ciel, dans la maison de ma Père. De mon Père, il y a plusieurs demeures. Ici, il ne s'agit pas que le Seigneur s'assied sur le trône. Ça, c'est Matthieu 25. On peut le lire. C'est toujours écrit au verset 31, où le Seigneur s'assied sur le trône de sa gloire. Va s'asseoir sur le trône de sa gloire. Matthieu 25, verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Ça concerne toute une autre venue. C'est tout à fait tout un autre contexte. Ici, il n'est pas parlé de l'enlèvement. Ici, il n'est pas parlé de la transformation. Ici, il n'est pas parlé des saints qui sont décédés ou bien qui sont restés vivants. Mais ici, il est parlé de notre Seigneur qui ensuite de la gloire reviendra et s'assiera sur le trône de sa gloire. Comme il est merveilleusement écrit dans Apocalypse 3, celui qui vaincra s'assiera avec moi sur mon trône, tel que j'ai vaincu et que je me suis assis sur le trône de mon Père. Au ciel, c'est le trône du Père. Mais ici, en tant que juge, il s'assied sur son trône et tous les peuples sont rassemblés devant lui. Oh, bien-aimés frères et sœurs, la parole de Dieu, ça n'a pas d'importance qu'on lise dans les évangiles ou bien qu'on lise dans les écrits, dans les épîtres, c'est clair quand ça nous est révélé par le Saint-Esprit dans les différents contextes. Encore une fois, revenons à 2 Pierre, le premier chapitre. Que Dieu nous accorde la grâce, que nous puissions réellement être édifiés et que ces vertus, telles qu'elles sont décrites ici, comme c'est décrit ici, soient manifestées, deviennent visibles en nous et par nous. Je vais vous dire aussi pourquoi est-ce que cela est possible. Parce qu'au verset 4, il est décrit, il est parlé des promesses les plus précieuses au verset 4. Participant de la nature de vie, voilà, de la part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature de vie. Donc, c'est des promesses. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Mais c'est une chose que Dieu a promis. Nous pouvons croire et nous ouvrir à l'action de Dieu. Et ensuite, si, comme il est écrit ici, en raison des plus grandes promesses que nous avons reçues, si nous pouvons croire et que par elles nous sommes devenus participants à la nature divine, à chaque fois, nous prenons part à l'édifice intérieur. L'homme intérieur grandit et expérimente son édifice jusqu'à arriver à la stature parfaite. À partir du verset 5, à cause de cela, même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance. La vertu accordée par Dieu, la connaissance accordée par l'Esprit de Dieu. Pas une connaissance qui te gonfle, qui t'enfle, mais une connaissance qui nous conduit dans toute la vérité. Ensuite, au verset 6, à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la patience, la persévérance, à la persévérance, à la patience, la piété, l'amitié fraternelle, à l'amour, l'amour fraternel, l'amour. Avons-nous tous ce souhait que cela ait lieu avec nous, l'amitié fraternelle, hein? Que tout cela, que tout ce qui est écrit ici, toutes ces vertus, par la grâce de Dieu, comme c'est écrit ici, soit en nous et abonde, et abonde. Ça, c'est l'objectif du message divin. C'est notre préparation pour le jour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite, nous pourrions donc de cette manière-là affermir notre élection et notre appel et ne plus jamais tomber. Comme c'est écrit ici au verset 10. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation. Soyez sincères. Avons-nous tous le premier amour, le premier zèle, Est-ce que tout cela est frais en nous? Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que ça vit en nous? Le zèle, est-ce que, ou bien alors que toutes ces choses sont refroidies? Au verset 10, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car, en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Le mot tomber ici, c'est broncher. Vous ne broncherez jamais. Amen. Affermissez de cette manière votre appel, votre élection, votre vocation avant même la fondation du monde. Affermissez-la de cette manière, sans considérer ce qui arrive. Ne considérez pas les circonstances, les difficultés, les épreuves. Regardez au Seigneur qui, avant même la fondation du monde, nous a déclaré cette vocation et cette élection, qui a expié nos péchés et par sa grâce nous a accordé la vie éternelle. Je crois ce qui est écrit ici. L'élection, les élus atteindront le but. Ils ne seront pas confus. Ils ne brancheront pas, non plus par des esprits étrangers, par des doctrines étrangères. Ils ne brancheront pas. Ils resteront et demeureront dans l'enseignement du Christ. Et ils seront affermis. Dieu, lui, a pris soin de tout à l'avance. Et ensuite, il est écrit, affermi. On pourrait continuer à lire au verset 12. Dans la vérité présente, affermi dans la vérité présente, etc. Oh, ici, l'apôtre a encore ouvert son cœur très large, et écrit, Au verset 12, voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Au verset 13, et je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente de vous tenir en éveil par des avertissements. Est-ce que vous remarquez la fidélité de Dieu? Dieu a établi, a utilisé des apôtres et des prophètes pour nous dire tout ce dont nous avons besoin pour notre préparation. Et soyez sincères, est-ce qu'il y a eu déjà un âge, un temps dans lequel nous avions tant besoin de cette exhortation comme aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons besoin plus de chaque verset, de chaque enseignement. Et nous sommes reconnaissants à Dieu pour sa sainte et précieuse parole. Et si cet homme de Dieu ici écrit, et je veux faire en sorte que même après mon retour, après mon départ, ici 2000 années plus tard, que vous soyez capable de vous tenir toutes ces choses en éveil par des avertissements. J'aimerais mieux même embrasser la Bible, lui donner des baisers, la sainte et précieuse parole de Dieu, ce livre précieux contenant l'enseignement, l'introduction dans tout ce dont nous avons besoin pour notre préparation. Dieu nous a accordé par la grâce. Des saints hommes ont poussé par Dieu, ont parlé de la part de Dieu, poussés, ont écrit de la part de Dieu. Et le sujet, c'est le retour de Jésus-Christ. Lisons le verset 16 encore une fois. Mais, verset 15 d'abord, mais J'aurais soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Ce n'est pas en effet en suivant des fabuleux conçus que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Un témoin oculaire, même de ses propres yeux, comme c'est écrit dans les prochains versets, dans les deux prochains versets encore, au verset 17, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire quand la gloire magnifique lui fut entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et ensuite, suit le témoignage de l'homme de Dieu. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Alléluia. Et ensuite, il peut dire, et nous tenons plus, pour d'autant plus certain, la parole prophétique. Autrefois, les apôtres ont fait référence à la parole prophétique et aujourd'hui, nous pouvons faire référence aux deux choses. À la parole prophétique et à la parole apostolique, nous pouvons faire référence à toutes les saintes écritures. Référence à ce que Dieu a dit par les prophètes, à ce que Dieu a dit par les apôtres et a laissé écrire par eux. Tout cela, nous l'avons dans le résumé. Que tous les frères qui ont déraillé, qui ont dévié, qui ont tourné le dos à la vérité et qui ont cru au mensonge, qui n'ont pas eu l'amour pour la vérité, c'est pour cette raison qu'ils ont branché et ont reçu les puissants égarements. S'il y a des personnes parmi eux que Dieu peut encore corriger et appeler à sortir, qu'ils puissent aussi le faire par cet exposé dans tous les peuples, les langues et les nations. C'est ainsi que nous avons compris. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. N'a rien à voir avec un message adressé aux vivants, même s'il est parlé ici d'un signal donné. Mais il est parlé ici de ceux qui sont décédés, auxquels on ne veut pas être laissé dans l'ignorance. Voilà le contexte. Et aussi vrai que Jésus-Christ est ressuscité, c'est ainsi que Dieu ramènera avec lui ceux qui sont décédés. Et ensuite, le Seigneur revient et ceux qui se sont endormis en Christ ressusciteront premièrement. Et ensuite, nous, qui sommes restés vivants et qui étions prêts, nous qui avons écouté le message et qui avons reçu la correction, nous qui nous sommes laissés ramener en accord et en harmonie, en liaison avec Dieu et sa parole, nous qui ont marché dans l'obéissance de la foi, qui ont prouvé l'obéissance de la foi par leur conduite, par leur vie, par leur marche, c'est nous qui sommes restés vivants. Il y aura un troupeau qui, lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ, sera resté vivant. Et alors, tout aura servi à quelque chose. Et nous atteindrons le but aussi certain que Dieu, par sa grâce, nous a révélé sa parole. À lui, le Dieu fidèle, soit l'honneur et la louange pour tout ce qu'il a déjà fait et pour tout ce qu'il fait dans le présent. Amen. Alléluia. Nous nous levons et nous voulons chanter ce chœur tel que je suis, sans rien de moi. nous courbons les têtes et persévérons dans la prière avec ce souhait profond d'être prêt pour le jour glorieux du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est seulement l'épouse qui prête l'oreille à la voix de l'époux. C'est seulement l'époux qui adresse sa parole aux siens. Et ce sont les siens qui écoutent sa voix, qui prêtent l'oreille à sa voix. Et sa voix, c'est sa sainte et précieuse parole que nous croyons de tout notre cœur. Pendant que nous demeurons dans la prière, je voudrais demander, est-ce qu'il y en a qui ont une requête particulière que nous pouvons apporter au Seigneur? Alors, levez les mains. Avons-nous quelques-uns ici? Oh oui. Oh, regardez, il y a réellement beaucoup de requêtes, beaucoup de problèmes, peut-être des maladies, peut-être concernant d'autres personnes à la maison ou bien dans la famille, dans la parenté, dans le couple, au travail, quoi que ça serait, ce serait, nous tous, nous savons que l'adversaire a le monde entier entre ses mains. Mais il se tourne dans sa colère aux croyants pour nous rendre la vie difficile. Les croyants passent par les épreuves les plus difficiles. Alors que je voyais tout ce nombre de jeunes, cette pensée m'est venue comme ce serait bien si tous les jeunes pouvaient consacrer leur vie au Seigneur. Aujourd'hui, maintenant, consacre ta vie au Seigneur Jésus. Si tu n'as pas encore expérimenté une expérience personnelle du salut, accepte cela comme un don accompli. Pour toi, il t'appelle. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du rafraîchissement. Je vous donnerai du repos pour vos âmes. Puis-je demander que tous les jeunes lèvent leurs mains. Après, vous pouvez les abaisser. Que ce soit pour la première fois, bien plus tard, que vous avez déjà consacré votre fille ou bien que vous voulez encore la consacrer. Combien de jeunes avons-nous ici? Regardez, combien? Regardez, partout. Et les jeunes passent aussi par le temps le plus difficile qui a existé sur terre. Ils sont livrés à beaucoup de choses et c'est pour cette raison que vous avez besoin de nos prières, de notre compréhension. Vous avez besoin de la prière de l'Église. Et maintenant, encore une fois, adressé à tous ceux qui ont levé leurs mains, s'il vous plaît, croyez que Jésus-Christ est le même. S'il vous plaît, croyez qu'il est présent. Nous avons la promesse. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je serai avec vous et nous avons la promesse là où deux ou trois sont rassemblés à mon nom. Nous avons les promesses merveilleuses que le Seigneur nous a données. Et il veut aujourd'hui parmi nous, confirmez sa parole à tous ceux qui croient. Et nous chantons quoi, seulement quoi, seulement, et ensuite le frère Schmitt viendra et priera avec nous.
großer Gott.
Grand Dieu.
Wir kommen zu dir.
Nous venons à toi pendant cette heure dans la foi.
Im Glauben, Herr Jesus.
Dans la foi, Seigneur Jésus-Christ.
Dass dein Wort
que ta parole est la vérité. Nous te remercions de ce que, Seigneur, tu as apporté la vérité. Tu as vécu la vérité. Et tu nous enseignes dans la vérité. Nous te remercions, Seigneur Jésus-Christ, de ce que tu parles avec nous et que tu appelles. Tu appelles chacun individuellement. Tu appelles encore, ô notre Dieu. Tu as une porte ouverte et tu veux que chacun entre. Ainsi, accorde-nous la grâce pour que nous puissions, Seigneur, te laisser entrer et que les enfants que tu nous as donnés, que nous puissions te les consacrer et qu'ils puissent ouvrir leur cœur et que tu puisses établir ta demeure dans leur cœur et que tu aies la première place en eux, ô Dieu. Je te remercie pour cela. De ce que dans la pleine confiance, dans la foi, nous pouvons te les apporter devant le trône de la grâce et tous de, qui, d'une manière ou d'une autre, sont empêchés par toutes sortes de circonstances, quoi que ce soit. Mais Seigneur, toi qui as vaincu toutes choses, tu as vaincu toutes circonstances, nous te remercions de ce que nous avons cette certitude. Et encore une fois, nous te le disons, nous te les apportons, nos enfants. Seigneur Jésus, toi seul, tu es tout. En tout, mon Dieu, nous te remercions de ce que tu as parlé avec nous d'une manière merveilleuse. Nous savons que nous serons près de toi et que nous serons unis avec toi dans le Dieu Tout-Puissant, le ressuscité, le vivant et qui revient. Sois avec nous et bénis-nous de la plénitude de ta grâce. Partout, Seigneur, où ton peuple écoute, bénis, nous te remercions pour cela. Amen. Chantons ensemble « Jésus est vainqueur ». Chantons de tout notre cœur.
Et
tout le peuple dit Amen. Loué soit le nom du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Nous le disons toujours de nouveau. Dieu est fidèle. Il nous a confié sa parole. Ses promesses sont oui et sont Amen. Et que, justement, nous avons la grâce de vivre maintenant où Dieu, justement, achève tout. C'est aussi la grâce. Et que nous avons la grâce maintenant de croire, comme le dit les Écritures, c'est aussi la grâce de Dieu. Nous ne prêtons pas l'oreille à ce que les politiciens ou bien les personnalités religieuses portent comme jugement. Le jugement, c'est le Seigneur qui le prononce. Et ce qu'il fait ne peut pas être compris par les hommes naturels, humains. Il faut que ce soit jugé spirituellement. Dieu est le Dieu fidèle, le Dieu fidèle éternel. Soyez reconnaissants, bien-aimés frères et sœurs, reconnaissants dans tous les peuples, les langues et les nations. Dieu a son peuple. Nous voyons aussi l'Afrique représentée. Nous voyons aussi les autres pays représentés. C'est ainsi que Dieu l'a dit à Abraham, l'a promis à Abraham. En toi seront bénis toutes les nations, tous les peuples de la terre. Est-ce que cela a été, la prédication a déjà été assez claire? Elle a été exposée, a été claire, assez claire. 1 Thessaloniciens chapitre 4, n'est-ce pas? Hein, frère, c'est clair. C'est clair dans la parole de Dieu. Et pour cela, nous en sommes très reconnaissants au Seigneur. Que Dieu nous bénisse tous et qu'il soit avec nous tous et que nous accorde tous la révélation par son Saint-Esprit. Recevons rachetons le temps que Dieu nous accorde pour écouter sa parole et préparons-nous de cette manière telle qu'on l'a entendu pour son retour. Que Dieu bénisse particulièrement tous les frères dans le ministère. Et aujourd'hui, ça me réjouirait si tous les frères dans le ministère pouvaient venir devant et que encore une fois, ensemble, nous puissions prier. Tous les frères des différents pays, tous les anciens, ça n'a pas d'importance quel devoir vous avez, que ce soit de caractère local ou bien alors parmi d'autres églises. Venez simplement pour que nous puissions ensemble prier et nous nous levons pour le faire. Venez, bien-aimés frères, des pays voisins de la Pologne, venez, bien-aimés frères, venez simplement devant pour que nous puissions encore ensemble prier. Venez, s'il vous plaît. Venez, Dieu vous a aussi accordé des responsabilités. Nous croyons que Dieu vous a appelé. Que Dieu vous a appelé comme moi, vous avez été appelé par Dieu pour la parole de Dieu. Frère Kupfer, viens, venez. Tous les frères, venez. Venez. Où sont nos frères de Prague? N'êtes-vous pas là? Oui, sûrement, venez, frères, s'il vous plaît. Venez tous, venez simplement, venez. Dieu est un Dieu fidèle. Venez, frère Kupfer. Venez. Il y en a encore, il y a sûrement encore d'autres frères qui auraient pu venir. Oui. Il y a sûrement encore d'autres frères. Nous voulons nous consacrer de manière nouvelle à Dieu. Pour qu'il puisse encore plus nous utiliser, encore plus, pour que sa parole puisse dans tous les pays, dans toutes les langues, soit portée comme il le veut. Nous allons ensemble prier pour que la fin, les extrémités de la terre soient atteintes. Le frère Inodi était en Chine et dans d'autres pays. Il vient de Cuba. D'autres frères étaient aussi dans d'autres pays. Et d'autres sont aussi dans leur pays. Et servent le Seigneur. Et tous, nous avons un seul désir. C'est que tous les frères dans le ministère d'abord soient un. Unis. Pour que l'Église soit aussi unie. C'est important que d'abord tous les frères soient un, soient unis dans l'enseignement, dans la connaissance, dans la foi, et que nous soyons un seul cœur et une seule âme, et que ensuite les ministères puissent être utilisés de sorte que l'Église, toute l'Église, soit unie. Le temps est là. Le temps est là. Que Dieu nous accorde sa grâce. Vous voulez tous prier ensemble pour tous les frères dans le ministère et aussi ceux qui ne sont pas venus devant, frère Kutkatska et d'autres frères, notre frère de Bratislava. Il aurait pu aussi venir, beaucoup auraient dû venir, qui ne sont pas venus. Dieu a partout ses serviteurs et son peuple. Nous voulons maintenant prier. Grand Dieu, nous te remercions pour ta parole révélée. Nous te remercions pour la clarté. Pour la clarté merveilleuse. Nous te remercions pour le message et pour le messager. Tu as fait en sorte que nous ayons de l'enseignement et que nous ayons ta parole, la parole des apôtres et des prophètes, ta sainte parole. Et nous te remercions pour cela dans le saint nom de Jésus-Christ. Bénis tous les frères. Bénis dans toutes les langues, dans tous les peuples et dans toutes les nations et appelle ton peuple à toi le Dieu Tout-Puissant. Sois la louange, la gloire et l'adoration maintenant et dans toute éternité. Aie ton chemin avec ton peuple. Que ta volonté soit faite. Que ta parole soit confirmée. Sauve ceux qui sont perdus. Guéris ceux qui sont malades. Délivre ceux qui sont liés. Et bénis ton peuple. Que tous te soient remis. Et nous te remercions de tout notre cœur. Pour tout ce que tu nous as accordé. Dans le saint nom de Jésus-Christ. Dans le saint nom de Jésus-Christ. Et que tout le peuple dise Amen.
Amen.
Chantons encore Amen, Alléluia.
Nous chantons encore Amen, Alléluia.
Amen.
Que Dieu le Seigneur vous bénisse ce soir avec vous, dans le saint nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen.
Amen.
Amen. Que chacun salue l'autre. Et nous saluons aussi d'ici tous ceux qui sont encore en liaison online, particulièrement tous les frères et sœurs en Suisse. Frère Graf, notre frère Wallström, tous nos frères et sœurs, dans toute l'Afrique, dans le monde entier, en Amérique du Sud, partout. Que le Seigneur soit avec nous et nous bénisse. Amen.